un podcast France Culture.
Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée au protectionnisme, un courant de pensée dominant à l'époque moderne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'un certain Adam Smith et d'autres dans son sillage vantent les mérites du libre-échange, seul capable à leurs yeux d'enrichir les nations. Mais si le libéralisme économique s'impose progressivement dans la bataille des idées, la France du XIXe siècle n'en a pas fini avec le protectionnisme. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Quand la France était protectionniste, c'est notre sujet aujourd'hui et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Démier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, auteur de cet ouvrage « La nation, frontière du libéralisme, libre-échangiste et protectionniste français 1786-1914 » paru aux éditions du CNRS il y a quelques mois. Une émission proposée par Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Léa Sabourin, Diane Devancet, Laurence Genepin et Margot Bolotny. Bonjour Francis Démier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors d'abord, pourquoi avoir décidé de consacrer un ouvrage à ces tensions entre libre-échange et protectionnisme dans la France du XIXe siècle ?
Eh bien, comme on vient de le préciser, je suis historien et non pas économiste. Et donc, dans mes recherches, j'ai été attentif ou en tout cas surpris de l'importance des débats et de la dimension politique d'un problème, d'une question, qu'on présente très souvent uniquement sur le terrain économique. Là, les enjeux, effectivement, au XIXe siècle, de la définition d'un niveau de protection pour l'économie française, sont aussi des enjeux sociaux et politiques. Un négociant banquier, Denis Rodet, parisien, à l'époque de la Restauration, disait: l'enjeu de notre douane, c'est de trouver une harmonie sociale. Et donc, il est important de ne pas perdre de vue que la question protection et libre-échange n'est pas simplement se poser qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui donne la croissance la plus importante ou la plus forte, mais comment des frontières douanières permettent de réaliser, entre les différents groupes sociaux, un équilibre, une harmonie sociale.
Alors on va voir effectivement tout au long de cette émission comment cette question est une question à la fois politique et économique. Vous avez choisi de commencer votre ouvrage quelques années avant la Révolution française, en 1786 précisément. Pourquoi cette date, Francis Démier ?
Parce que tout le 19e siècle a les yeux tournés vers cette date. C'est la date de ce qu'on appelle le funeste traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, qui a été signé en juillet 86, et qui est considéré effectivement comme une catastrophe par ceux qui voulaient lancer la révolution industrielle. Ce qui est important, justement, c'est que les débats qui ont accompagné les négociations de ce traité sont des débats nouveaux, dans la mesure où ils associent une réflexion sur la douane, sur la définition effectivement d'un cadre protecteur, et en même temps sur la révolution industrielle. Donc, deux éléments, effectivement, qui sont pris en compte à ce moment-là.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, dans quelles circonstances ce traité de commerce a été mis en place ? C'est d'abord dans une perspective de pacification avec l'Angleterre, Francis Démier ?
Oui, d'une façon générale, toutes les guerres se terminent par des traités au XVIIIe siècle et se terminent aussi par la négociation d'un assouplissement des échanges commerciaux. Ça avait été le cas déjà en 1713, après les guerres de Louis XIV. Et là, on est au lendemain d'une guerre entre la France et l'Angleterre à propos des États-Unis. Et il y a le traité de Versailles, effectivement, qui inaugure en quelque sorte, dans l'esprit de Louis XVI et dans l'esprit du pouvoir, une perspective pacifiste. Et du reste, ce qui guide avant tout les enjeux de ce traité, ce sont des enjeux politiques et diplomatiques, beaucoup plus que des enjeux économiques.
Justement, c'est problématique sur le plan économique, mais il y a peut-être une absence de conscience du problème que pose ce traité sur le plan économique. On peut parler d'un aveuglement côté français, Francis Démier, face au danger que représente la concurrence anglaise.
Alors, aveuglement, En tout cas, sous-estimation de façon évidente de la part de la partie française, c'est-à-dire Vergène, hein, qui était ministre des Affaires étrangères, qui a été en charge des négociations avec Calonne et Eden. Sous-estimation de l'avance et de la nature même de la révolution industrielle anglaise. Avec ceci étant l'idée que le gouvernement français, que la France de l'Ancien Régime, dans une période où elle envisage des réformes, se trouve bloquée sur le plan intérieur, et qu'un peu comme en 58 avant le traité de Rome, une intervention en quelque sorte de la pression extérieure, de la concurrence extérieure, permettra de faire le travail qui n'était pas fait par le gouvernement français, ou qu'il ne parvenait pas à faire. Autrement dit, l'enjeu libre-échangiste est un enjeu réformiste, mais un enjeu périlleux dans la mesure où il y a une grande inégalité à cette époque entre une Angleterre déjà en avance sur le plan de la révolution industrielle et une France qui ne l'est pas.
Mais il y a certaines voix, certains personnages qui tirent la sonnette d'alarme déjà à cette période et qui disent attention, le charbon coûte 5 fois moins cher en Angleterre qu'en France. Le danger est réel, Francis Démier.
Oui, il y a tout d'abord le personnel diplomatique français qui est en Angleterre, hein, qui Montmorency en particulier, qui était chargé d'affaires, qui a fait une enquête et qui dit « nous courons à la catastrophe ». Et d'autre part, ce qu'il faut prendre en compte, et ça c'est un élément important pour la longue durée, c'est l'appareil d'État, une technocratie en quelque sorte, Ambroise Arnoux, Boyotet, toutes ces personnalités qui sont à la direction finalement du commerce et des manufactures, ont parfaitement vu le danger que représentait une ouverture du marché français, en particulier pour les quelques secteurs industriels qui se sont lancés dans la nouveauté. Et je pense en particulier au coton. Puisque le coton, finalement, est l'élément clé, c'est l'industrie d'avant-garde. Et les Anglais, à cette époque, effectivement, sont très très nettement en avance sur nous.
Alors comment expliquer que la concurrence industrielle que représente l'Angleterre pour la France soit ainsi sous-estimée? C'est parce que la France, sous l'influence des physiocrates, était d'abord vouée à devenir une grande puissance agricole plutôt qu'industrielle, Francis Démier?
Oui, alors vous avez raison, il y a effectivement une influence du débat d'idées. En fait, et un débat d'idées qui, à cette époque-là, est dominé par les physiocrates, toute l'école de Quesnay. Dupont de Nemours, qui va participer aux négociations, est un des chefs de file de la pensée physiocratique. Et pour ces gens-là, une puissance économique est d'abord une puissance agricole. Donc, le poids de la France par rapport à l'Angleterre ne pose pas question. Hein. Et dans ces conditions, les physiocrates sont assez d'accord avec l'idée qu'on pourrait abandonner en quelque sorte les problèmes de la manufacture à l'Angleterre. L'Angleterre, pays manufacturier, et la France, un grand pays agricole. Et donc, il y a cette idée qui court en quelque sorte, à la fois chez les idéologues physiocrates, mais en même temps dans les sphères gouvernementales, que somme toute, une division du travail international sur ces bases-là permettrait à la France d'exercer une hégémonie en Europe parce qu'elle pourrait exporter ses grains et, en quelque sorte, profiter ou jouir de sa supériorité agricole.
Et alors, quels ont été les effets de ce funeste traité, Francis Démier? Il y a eu des effets économiques sur les manufacturiers, mais aussi des effets politiques, puisque le patronat français va se rallier à la Révolution.
Oui, alors, les effets économiques, disons, des mesures du traité de commerce sont assez difficiles à apprécier parce que la France entre en crise globale à partir de 1786-87. Le phénomène s'amplifie avec un problème agricole et donc là, une hausse des prix qui s'envole. Mais on peut dire que l'arrivée des cotonnades anglaises, des filets de coton anglais, a eu des effets catastrophiques, en particulier sur quelques pôles de la production de l'époque, Rouen, Amiens, la région du Nord, quelques pôles en quelque sorte qui étaient déjà lancés dans cette aventure. Le patronat, bien évidemment, on va dans les cahiers de doléances en particulier, exprimer son refus, ou en tout cas sa critique de ce traité. Il faut toutefois prendre en compte le fait que le phénomène est remarqué aussi par Holker, qui est un des patrons techniciens de l'époque d'origine anglaise, On n'envisageait pas du côté du patronat un blocage total ou un protectionnisme, un prohibitionnisme. Il fallait simplement 5 à 10 ans supplémentaires pour, en quelque sorte, atteindre un seuil de compétitivité, de productivité qui permette de tenir, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, on comprend pourquoi, effectivement, à partir de 89 et encore plus clairement à partir de 92-93, les manufacturiers, les cotonniers, ont été en quelque sorte un des fers de lance de la Révolution.
Pour bien comprendre la vision du commerce, qui est celle de la France en cette fin du XVIIIe siècle, je vous propose d'écouter le discours du directeur général de l'agriculture, du commerce, des arts et des manufactures, Louis Becquet, aux membres des chambres de commerce le 6 juin 1814. C'est un peu plus tard, mais c'est assez emblématique. Écoutez. S'il m'est agréable, comme vous pouvez en douter, d'entrer en correspondance avec vous sur les matières importantes que Sa Majesté a daigné confier à mes soins, la satisfaction que je me promets de ces rapports s'accroît encore de tout ce que les circonstances font augurer de favorable à la prospérité de notre commerce et de notre industrie. Le moment est venu où le commerce intérieur verra exaucer les vœux qu'il pourra former dans l'intérêt bien entendu de tous et où, grâce à l'intervention d'un gouvernement plein de bienveillance, nos expéditions obtiendront chez les autres nations des facilités dont elles sont depuis longtemps privées. Liberté au dedans, protection au dehors, tels sont les principes qui seront appliqués au commerce, tels sont les éléments de sa régénération. Ainsi, par exemple, les fabriques de draps du pays de Liège et d'Aix-la-Chapelle ne concourront plus, du moins sous les mêmes conditions qu'auparavant, à l'habillement de la population française. Mais aussi, nous ne pourrons plus regarder comme contribuant à l'augmentation de nos ressources les exportations qu'elles faisaient à l'étranger. Et si, en raisonnant pour la France entière, sans exception de localité, il pouvait, dans les temps qui ont précédé, être indifférent à notre économie générale de voir les fabricants de Verviers remplacer ceux de Carcassonne dans le commerce des draps du Levant, cette indifférence ne peut plus exister aujourd'hui et nos efforts doivent tendre à ressaisir ce moyen de travail et de richesse. Francis Démier, que vous inspire ce discours de 1814? On voit l'influence des Girondins?
Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, hein, parce que cette idée, effectivement, que le libéralisme français est un libéralisme dont les chances reposent sur l'existence de frontières, remonte aux Girondins, en fait. Hein, à toute les Rolands, les Clavières, etc., qui ont réfléchi. C'est la bourgeoisie révolutionnaire, en fait, hein, qui défend ses intérêts économiques et qui les définit à partir de cette période-là. Et qui donc pense que les frontières de 1792, qui ont été fixées donc au moment de la Révolution, constituent ou délimite le juste espace dans lequel les manufacturiers prendront les risques de l'aventure industrielle. Donc, je crois qu'on est là sur un point décisif de ce qui définit le protectionnisme français, qui est un libéralisme. Étant entendu que pour que réussisse ce libéralisme, une aventure économique est celle du capitalisme, finalement, il faut des frontières. Et que sans frontières, effectivement, l'expérience de l'Ancien Régime l'a montré, personne, en quelque sorte, ne prendra le risque de s'aventurer dans une concurrence universelle, sans limite.
Et donc là où, par exemple, Marseille était plus tournée vers la Méditerranée, et du côté de l'Est de la France, on était plus tourné vers la Belgique et l'Allemagne, il y a cette idée de créer, en quelque sorte, un marché commun français, Francis Démier ?
Oui, il s'agit de créer un espace unique, hein, avec à l'esprit... Deux grandes idées. La première, c'est l'égalité. Égalité entre les régions. Les départements vont y contribuer sur le plan administratif. La politique économique va y contribuer sur le plan de la protection douanière. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important, c'est la mobilisation des bras, le travail. Le protectionnisme est une politique productiviste. par rapport à un ancien régime dont la plaie était le sous-emploi. Et donc cette mobilisation finalement des initiatives économiques de celles du patronat ont pour vocation effectivement le travail. Hein. C'est Chaptal qui en sera le théoricien justement de cette mobilisation des bras par la définition d'une protection douanière. Mais en 1814, évidemment, ça prend une dimension nouvelle. On peut peut-être le préciser parce que c'est le moment où la France entre en paix pour une longue période. Et où elle sort des guerres napoléoniennes.
On va en venir évidemment à la Restauration, dont vous êtes un grand spécialiste, Francis Démier. Peut-être rester encore un peu dans cette période qui suit la Révolution, puisqu'il y a donc ce choix du protectionnisme dès 1790 par l'intermédiaire de barrières douanières, un choix qui va bouleverser les relations commerciales de la France avec ses voisins.
Oui, ce qui va bouleverser surtout les relations de la France avec les voisins, c'est la guerre. Parce qu'il faut bien voir effectivement que la définition que les Girondins ont donnée et qu'on évoquait tout à l'heure ne pouvait fonctionner qu'en temps de paix, avec un gouvernement libéral, des institutions parlementaires. La France bascule dans la guerre parce que finalement, le problème des rapports commerciaux entre la France et l'Angleterre n'a pas pu se régler de façon négociée. Et il s'est réglé de façon militaire. Et même à un certain moment, disons que les manufacturiers français ont peut-être pensé, surtout à l'époque napoléonienne, que la meilleure solution était d'écraser militairement l'Angleterre pour dominer le marché continental et se tracer en quelque sorte un espace continental qui leur aurait été favorable. Cette possibilité disparaît en 1814. La France est vaincue. Et donc, il y a une donnée nouvelle, c'est que désormais le protectionnisme français doit être pensé en termes négociés avec le reste de l'Europe et en écartant la perspective d'une guerre, donc d'un rapport de force militaire qui aurait, en quelque sorte, comme l'avait voulu Napoléon, tronqué la situation des échanges. Ça, c'est la différence de 1814.
Mais avant cela, pardon de vous couper, Francis Démier, il faut peut-être simplement évoquer les oppositions au protectionnisme qui existent dès la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Il y a l'idée que le protectionnisme, ce serait une nouvelle forme de privilège façon ancien régime, Francis Démier.
Oui, ça c'est la réaction ou la résistance des milieux agricoles, qui ne se sont pas retrouvés effectivement dans un choix qui a été le choix napoléonien privilégié, c'est de lancer le capitalisme. Et lancer le capitalisme dans un cadre protectionniste, mais en particulier sur une industrie qui est la base même du système, désignée par Chaptal comme étant en quelque sorte le fer de lance de l'industrialisation, c'est le coton. Parce qu'il y a des machines, parce qu'il y a la classe ouvrière, et d'autre part parce que c'est les techniques nouvelles. Hein. Mais cet enjeu, en quelque sorte, a été critiqué vigoureusement par le secteur agricole. Pas seulement, du reste, par l'aristocratie foncière d'Ancien Régime, mais par la constitution d'un grand bloc rural qui associe les grands propriétaires d'origine aristocratique ou bourgeoise et une partie, effectivement, de ceux qui ont accédé à la terre à travers la Révolution. Leur interprète, c'est du reste un des traducteurs de Adam Smith, c'est Germain Garnier, qui va écrire abondamment sur la question et qui considère en fait que les acquis industriels de l'époque napoléonienne sont des artifices qui vont disparaître justement dans le jeu de la concurrence et que l'équilibre général de l'Europe se rétablira après les guerres napoléoniennes sur une France agricole encore et sur une Angleterre manufacturière. Nous retrouvons cette division.
Résistance des grands propriétaires agricoles à ce protectionnisme, résistance aussi des banquiers, Francis Démier, en ce tout début du 19e siècle.
Alors, oui, on a des négociants banquiers à cette époque, c'est-à-dire qui font commerce de l'argent et commerce des marchandises. Et effectivement, beaucoup étaient liés à des circuits internationaux, en particulier les grands circuits de la richesse française qui vont s'effondrer dans les guerres révolutionnaires, qui sont les grands circuits atlantiques, les circuits des îles, ceux du sucre qui alimentaient effectivement les réexportations françaises à l'échelle de l'Europe.
Quand la France était protectionniste, c'est notre sujet aujourd'hui sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Francis Démier. Alors vous l'avez évoqué, après la chute de Napoléon, il y a des bouleversements qui surviennent. À ce moment-là, le protectionnisme français va viser à rattraper l'Angleterre qui est en plein essor industriel.
Rattraper l'Angleterre... Bon, c'est peut-être effectivement une ambition qui n'est pas partagée par tout le monde à cette époque. Non, ce qui est important, c'est de prendre l'Angleterre pour modèle. On se trompe très très souvent effectivement sur les grands enjeux à partir de 1814 de la Restauration. L'Angleterre constitue un modèle. Et la plupart des économistes du reste, il faut revenir peut-être parce que j'ai insisté sur le lien qu'il y a entre les idéologies économiques et les pratiques qui sont celles du gouvernement... les économistes de l'époque, qui sont différents de Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say, l'économiste qui est reçu dans les salons, chez les banquiers négociants qui rêvent effectivement d'une Europe des échanges. Mais il existe à cette époque-là beaucoup d'économistes qui vont conseiller le pouvoir et qui, eux, reprennent en fait finalement cette idée, on l'évoquait avec Becket tout à l'heure, qui est le technocrate typique finalement de l'époque de la Restauration et qui appartient à ce qu'on appelle le groupe de Talleyrand et qui consiste à dire « protection à l'extérieur, liberté à l'intérieur ». Et ce projet économique est un projet effectivement qui est mené dans des conditions qui sont favorables à la croissance française de l'époque.
Oui, cela fonctionne, il y a une très forte croissance au début de la Restauration.
Et la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que cette stratégie économique est fondée sur l'exploitation d'un marché qui est le plus important d'Europe, puisque la France approche les 30 millions d'habitants à cette époque, et que toute la croissance de cette époque va être essentiellement une exploitation du pouvoir d'achat intérieur.
Alors et que l'Angleterre, c'est seulement 8 millions.
Les relations extérieures sont très, très modestes. Les relations extérieures, les échanges qu'on évoquait tout à l'heure, sont des échanges pour la France limités à des créneaux qui sont des créneaux de l'industrie de luxe. La soie en particulier, les vins, les articles de Paris, etc. Mais exportations qui permettent de financer, ce qui est très important, les importations de matières premières. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce protectionnisme est à deux vitesses. Protéger les produits qui ont de la valeur ajoutée, c'est-à-dire du travail. On veut le travail français, mais en revanche, laisser entrer les matières premières, ce qu'on appelle les aliments de l'industrie. Et à cette époque, le charbon, par exemple, n'est pas frappé par des prohibitions. On laisse entrer le coton, les laines, etc., qui sont les aliments décisifs justement de la croissance économique.
J'évoquais le marché intérieur de l'Angleterre qui représente seulement 8 millions de personnes contre 30 millions en France. Et on arrive à la période qui suit la révolution de 1830, la monarchie de Juillet. Donc allons faire un tour du côté de l'Angleterre.
L'heure est venue pour les membres de cette chambre de statuer sur le destin de l'Angleterre. Déciderons-nous d'avancer en direction de l'avenir ? Ou allons-nous rester croupir dans le passé ? Sommes-nous un pays qui ne peut prospérer que dans l'atmosphère sordide et moribonde de la prohibition et des taxes douanières ? C'est pourquoi je propose de voter le libre-échange entre les nations, messieurs. Il est temps de s'ouvrir au futur et d'oublier le passé !
L'honorable représentant du comté de Lincoln.
Monsieur le président de la Chambre, croyez-vous que le parti des Tories va rester là les bras croisés pendant que notre premier ministre nous condamne à dépendre de nations étrangères pour nous nourrir ? Simplement parce qu'il décide de suivre la clameur de la populace ? Et j'appelle donc tous les Tories ici présents qui partagent mes idées à faire front avec moi, car il nous faut résister en utilisant tous les moyens parlementaires dont nous disposons contre cette trahison inqualifiable de chacune des valeurs que notre noble parti représente. Honte sur vous !
Voilà la bataille de Lord Peel au Parlement britannique, extrait de la série Victoria de Daisy Goodwin, avec l'élection de Robert Peel au poste de Premier ministre en 1841. L'Angleterre sort elle-même du protectionnisme et se convertit au libre-échange, Francis Démier ?
Oui, alors on fait allusion là à une situation nouvelle qui va être l'ouverture réalisée par Peel du marché anglais pour obtenir l'ouverture du marché européen. Mais c'est en période tardive dans la monarchie de Juillet, c'est en 1946. Hein. Et donc, s'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'en 1946, l'Angleterre est un pays protectionniste. Hein. L'acte de navigation, en particulier l'acte de Cromwell, est décisif. Et pour les Français, ce ne sont pas les économistes anglais qu'on écoute, c'est le gouvernement anglais. Et ce gouvernement est protectionniste, et même hyper protectionniste. Et donc ce qu'on admire en France, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme anglais. Alors tout change à partir de 1946, effectivement, parce que l'Angleterre va basculer dans une ère du libre-échange. Et l'influence, évidemment, sur les débats économiques français, sur cette question des échanges, seront décisifs.
Et pourquoi bascule-t-elle, Francis Démier ? Parce que il y a cette idée que le protectionnisme est responsable en partie des inégalités qu'on observe dans cette Angleterre industrielle du début de la première moitié du XIXe siècle.
Alors, ça tient aussi à une évolution de la pensée libérale française et des libre-échangistes français. Se constitue dans les années 1830-1840 toute une école libre-échangiste française qui s'inspire en fin de compte de Jean-Baptiste Say, mais aussi des leçons de la Révolution française, et qui, dans son esprit, pense effectivement que les échanges doivent se développer sur une base égalitaire entre les différents acteurs économiques. Or, le protectionnisme est générateur de monopoles. Et il va y avoir, de la part de ces libre-échangistes français, une lecture très particulière de la naissance du capitalisme, de ces monopoles, comme étant une résurrection de l'Ancien Régime. Réapparition de l'Ancien Régime. Et donc on voit apparaître, dans le débat et dans le discours des libre-échangistes français, tout un héritage, disons, de la Révolution française, qui consiste effectivement à dire « c'est de l'aristocratisme ». Le capitalisme est une aristocratie. J'ai travaillé en particulier sur Adolphe Blanqui, qui est un économiste de l'époque et qui est professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, et qui effectivement n'accepte pas cette inégalité sociale qui fait que, du reste, les libre-échangistes vont développer un discours qui va se rapprocher des socialistes.
D'ailleurs, Proudhon suit les cours de Blanqui.
Il y a tout un débat et qui a commencé, du reste, à la fin de la Restauration, par une articulation très particulière en France du courant de Jean-Baptiste Say et des Saint-Simoniens. Il y a donc à la fois le productivisme saint-simonien et les leçons d'un échange égalitaire qui ne peut fonctionner, en fait, que sur la base de la petite entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce libre-échangisme va finalement, face au grand capitalisme, défendre l'idée que le libre-échange permettra de se débarrasser de ce capitalisme aristocratique et permettra au contraire d'asseoir, de consolider, de développer un modèle français qui est basé sur la petite entreprise. Petite entreprise de luxe avec une base artisanale et éventuellement une direction bancaire, ce qui est le modèle français. Le modèle parisien, c'est la haute banque associée à l'artisanat. Et ils exportent. Et effectivement, ça donne au libre-échangisme français, je pense, un tour critique qui est tout à fait original.
Et comment ça se manifeste concrètement dans la politique mise en place par Louis-Philippe en cette fin de la décennie 1840, Francis Démier ?
Alors, l'idée, dès le départ, finalement, des orléanistes de Louis-Philippe et surtout de Guizot, ça a été de faire évoluer le protectionnisme français vers un système ouvert sur l'Europe. Ouvert sur l'Europe et qui consisterait à faire de la France une plaque tournante des échanges européens en liaison avec l'Angleterre. Et le combat qui a été mené par les orléanistes, c'est faire disparaître les prohibitions et mettre sur pied un système de protection douanière calculé. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à la différence de l'Angleterre, la France n'est pas un pays protectionniste, elle est prohibitionniste.
Alors,
il y a plus d'une cinquantaine de produits clés qui sont interdits d'entrée, ce qui donne du reste un tour militaire finalement au système protecteur. Et à partir de 1830, le libéralisme orléaniste a comme objectif effectivement de faire sauter les prohibitions et de les transformer en taxes. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y parviendront pas.
À cause de la résistance des cotonniers ?
À cause de la résistance des capitalistes, d'une façon générale, qui ont un argument décisif. C'est désormais le poids des investissements réalisés, et donc le risque des faillites, et d'autre part, le poids de la main-d'œuvre. L'industrie cotonnière, à cette époque-là, a la classe ouvrière la plus nombreuse, ce sont des centaines de milliers de travailleurs. Remettre en question la protection douanière, le patronat dit toujours « vous allez les jeter à la rue ». Et pour un système politique, l'organisme qui est relativement fragile, il est bien évident effectivement que à la Chambre des députés, la majorité conservatrice, la majorité guizotiste n'ira pas sur ce terrain-là.
Oui, et peut-être qu'il faut expliquer, Francis Démier, que le patronat, à ce moment-là, sous la monarchie de Juillet, est de plus en plus structuré. Il est mieux capable de défendre ses intérêts.
Oui, le patronat, effectivement, c'est organisé. Il y a des associations, désormais, qui structurent les branches. Il dispose aussi d'une majorité, très souvent, d'une puissance dans les conseils généraux, qui sont la base du système des notables. Et il dispose d'une majorité. Les libre-échangistes ont toujours été minoritaires. Les assises du libre-échangisme en France, c'est les ports qui deviennent libre-échangistes. Ils n'étaient pas sous la Restauration. C'est les régions vinicoles qui toujours protestent effectivement pour exporter leur vin. C'est Paris, parce que Paris est une ville qui exporte, et c'est Lyon. Mais en dehors effectivement de ces assises économiques du libre-échange, qui sont minoritaires, nous avons une majorité protectionniste.
Ils sont minoritaires et ils sont stigmatisés, ils sont vus comme des agents de l'Angleterre. Francis Démier, notamment par l'intermédiaire d'un industriel et homme d'État, Richard Cobden, qui lui va transmettre, diffuser ses idées libre-échangistes en France.
Alors, si les protectionnistes s'organisent, et très bien du reste, le libre-échange s'organise aussi. À partir de 1846, il y a cette fameuse tournée de Cobden à l'échelle de l'Europe. Il est reçu en France, il est adulé, et on voit effectivement dans les promesses de la politique de Peel la perspective d'un véritable changement. Il y a un lobby libre-échangiste qui s'est bien organisé et qui surtout, je dirais, gagne la bataille intellectuelle. La bataille intellectuelle est dans les mains des libre-échangistes.
Notamment grâce à Frédéric Bastiat, qui popularise les idées de Cobden.
Bastiat, qui popularise effectivement les idées de Cobden. Mais il y a toute une génération d'économistes autour de cette presse libérale qui est très active et qui a des positions clés, elles, non pas à la Chambre des députés, mais dans des institutions comme l'Académie des sciences morales, comme le CNAM, le Conservatoire des arts et métiers. On en a également au Collège de France, Chevalier va y être. Les grandes chaires sont occupées par des libre-échangistes.
Alors la révolution de 1848 va-t-elle bouleverser ce tournant libre-échangiste? On en parle juste après ça.
Hé, porteur!
Ouais?
Porteur, vous croyez vraiment que monsieur le douanier va me laisser passer?
Hein? Antoine!
Oui, chef.
Tu es bon comme la douane, il est bon comme la douane. Je suis bon comme la douane, comme la douane. Tu es bon, il est bon comme la douane. Je tue, il est bon.
Nous sommes bons comme la douane, comme la douane. Vous êtes bons, on est tous comme la douane. On est vraiment bon, ce qu'on est bon.
Alors attendez, bon comme un potage au vermicelle,
bon comme une tranche de melon,
bon comme la paire de bretelles
qui nous retient notre pantalon. Ce qu'on est bon, comme la douane, tu es bon, il est bon, comme la douane, je tue, il est bon. Nous sommes bons comme la douane, comme la douane. Vous êtes bons, on est tous comme la douane.
On est vachement bons.
Comme la douane, une chanson de Gérard Caluy avec Louis de Funès sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, l'historien Francis Démier est toujours avec nous dans cette émission consacrée au protectionnisme français au 19e siècle. Une émission réalisée par Félicie Faugère et Françoise Le Floch et mise en onde par Olivier Arnay. Alors nous avons quitté une France en plein débat entre libre-échangistes et protectionnistes sous la monarchie de Juillet avec des libre-échangistes qui, nous avez-vous dit, Francis Démier, ont gagné la bataille des idées à ce moment-là. Mais la bataille se poursuit tout de même après la révolution de 1848 qui met fin au pouvoir de Louis-Philippe.
Oui, alors c'est un moment très important qui, pour les libre-échangistes, a été considéré au départ comme une chance formidable parce que d'abord Lamartine avaient rejoint le combat des libre-échangistes sous la monarchie de Juillet. Et d'autre part, la plupart des libre-échangistes ont pensé que la promotion, la mise en avant du thème de la liberté politique allait se traduire sur le plan économique par la liberté des échanges. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé, finalement. Et ces économistes libre-échangistes, qui ont d'abord mené bataille en faveur, effectivement, même de la commission du Luxembourg, ils y sont retrouvés, etc., ont déchanté très rapidement de mouvements sociaux. Et la classe ouvrière, le mouvement social, les grèves en particulier leur ont fait peur, et ils ont basculé en quelque sorte dans le camp de l'ordre. Non seulement basculé dans le camp de l'ordre, mais ils sont devenus finalement sous la Seconde République, ces économistes qui étaient prêts au départ à balayer ce capitalisme aristocratique par le libre-échange, ils se sont retrouvés en avant-garde ou à la tête du combat contre le socialisme. On évoquait Proudhon tout à l'heure, sa rupture avec Blanqui. Adolphe Blanqui, l'économiste, en est un exemple. Et en revanche, ce qui est significatif de la période, c'est que le suffrage universel ne change absolument pas le rapport des forces entre les deux camps. Au contraire, et très habilement, le patronat protectionniste va utiliser la République à son profit, et en particulier soutenir toute une série de mesures, comme la limitation du temps de travail, à un moment où le patronat accumule les stocks et est très content d'une harmonisation, finalement, de la politique par le gouvernement républicain. Et donc, le gouvernement républicain, jusqu'au coup d'État, va maintenir et même amplifier la protection douanière, sous la direction, finalement, d'une personnalité qui devient Monsieur Protection, qui est Adolphe Thiers.
Donc si je vous comprends bien, Francis Démier, on assiste à ce moment-là, avec l'avènement d'une république issue du suffrage universel, à une dissociation entre le libéralisme économique et le libéralisme politique.
Oui, à une nuance près, c'est que le libéralisme politique disparaît rapidement dans la République et qu'à partir effectivement de la fin de l'année 48, on a une République très conservatrice qui est dans les mains des notables.
Une République bourgeoise.
Dans les mains, effectivement, d'un patronat aussi apeuré à la fois par la pression socialiste et par la crise économique qui sévit et qui donc a des arguments pour imposer l'idée qu'il n'est pas question à ce moment-là de changer la stratégie protectionniste.
Et bientôt survient le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui s'accompagne d'une répression contre les républicains.
Restez derrière.
L'état d'urgence a été déclaré, madame. On a tous les droits.
Bougez pas d'ici.
Voilà, c'était un extrait du film Le Semeur de Marine Francène. Le coup d'État de Napoléon va correspondre à un tournant de la France vers le libre-échange, Francis Démier.
Ah ben c'est un tournant fondamental qui a été du reste débattu, discuté par les économistes qui ont remis en question l'idée que le fameux traité de 1860, traité de libre-échange, était un vrai tournant. Moi, je plaide en faveur effectivement quand même d'une rupture, et d'une rupture longue, puisque dans le plan de mon livre de la Seconde République aux années 90, j'introduis dans le 19e siècle français une assez longue période effectivement en direction du libre-échange, et même d'un libre-échange qui a été plus important probablement que celui qu'on affiche dans les manuels.
Donc ce sont concrètement des droits d'entrée qui sont abaissés sur les matières premières, la houille, la fonte, les fers, les aciers, les laines, les bois de teinture. Mais ce qu'il faut peut-être préciser, Francis Démier, c'est que Napoléon ouvre ainsi la France aux échanges internationaux, donc avec ce traité de commerce avec l'Angleterre en 1860, mais après moult tergiversations. Pourquoi est-ce qu'il a autant hésité ?
Parce que le patronat est très puissant, un patronat très organisé qui a triomphé et qui l'a aidé du reste dans le coup d'État. C'est le patronat effectivement qui est son meilleur soutien au lendemain du coup d'État. Et donc il y a hésitation. Il y a hésitation d'autant plus que Napoléon III est un converti au libre-échange. Les ouvrages qu'on connaît de lui, en particulier sur le sucre écrit sous la monarchie de Juillet, étaient plutôt favorables, effectivement, à une approche protectionniste des échanges. C'est en Angleterre qu'il a connu, effectivement, tous les réseaux libre-échangistes anglais. Et Napoléon III a été très impressionné par la croissance de l'Angleterre victorienne. Il a bien vu, effectivement, qu'elle était liée à cet épanouissement des échanges qui avait touché l'Angleterre.
Et en l'occurrence, cette ouverture à la concurrence internationale se passe plutôt bien, Francis Desmiers. La France résiste mieux que prévu.
La France résiste mieux que prévu. Disons qu'un indice, c'est que la balance commerciale entre la France et l'Angleterre est désormais positive. Ce qui, effectivement, souffre, c'est le textile, un peu le coton en particulier, et la vieille métallurgie qui fonctionnait à la fois au charbon et au bois. Mais d'une façon générale, on peut dire que le traité de libre-échange, qui du reste s'accompagne de toute une série de traités à l'échelle de l'Europe, et qui réalise en quelque sorte un peu le rêve de Cobden de 1846, qui consistait aussi à faire de la France justement cette plaque tournante des échanges à l'échelle continentale. Et donc on peut considérer effectivement que le traité est une réussite. Et je dirais qu'il est d'autant plus une réussite qu'il a été très très difficile de se débarrasser finalement du système qu'il avait mis en place.
Alors justement, effectivement, il y a cette ouverture au libre-échange et on pourrait imaginer qu'avec l'avènement de la Troisième République, qui est proclamée le 4 septembre 1870, la fin de l'autoritarisme aille de pair avec la fin du libéralisme commercial, mais ce n'est pas ce qui se passe, Francis Desmiers.
Non, il y a une personnalité et qui du reste, à la fin du Second Empire, avait été à la tête de l'opposition, qui est Thiers, en liaison du reste avec un patronat qui n'a jamais vraiment accepté, et surtout le patronat du coton, qui n'a jamais vraiment accepté cette option libre-échangiste, qui est une option dont il faut souligner le changement. En règle générale, on dit que le traité de libre-échange, d'abord, a fait sauter les prohibitions, ce qui n'a été jusque-là jamais réussi. Et le deuxième point, on dit 30% en 60 comme droit de douane, et 24% un peu plus tard. En réalité, les négociations qui se sont faites produit par produit aboutissent à des diminutions de droits beaucoup plus importantes. Les droits, par exemple, perçus sur les machines anglaises ou les locomotives sont de 8 à 10%. Les droits sur le textile sont guère plus élevés. Et quand vous prenez en compte à l'heure actuelle les droits qui sont mis en place sur différents produits, l'automobile, etc., aux États-Unis ou ailleurs, nous sommes sur une base beaucoup plus libre-échangiste, en fin de compte, à ce tournant du Second Empire. Il a quand même fallu se débarrasser du système parlementaire. Et là, c'est intéressant de voir que libre-échange égale séparation entre libéralisme économique et libéralisme politique. Et la grande découverte, effectivement, du public de cette époque, c'est de dire que le libéralisme économique pouvait s'accorder avec un régime autoritaire. Alors, pour revenir à Thiers et à notre entrée dans la Troisième République, il est vrai que Thiers a été persuadé au départ que la République, c'était se débarrasser du Second Empire et en même temps du libre-échange. Ça a été impossible pour deux raisons. La première raison, c'est que les traités étaient signés jusqu'aux années 90 et que donc pour se débarrasser des traités, il fallait l'appui de la Chambre des députés. Il ne l'a jamais obtenu vraiment. Et la deuxième raison, c'est que la France était confrontée à des problèmes financiers très importants après les guerres de 70 et qu'il fallait trouver de l'argent. Et Thiers a eu la mauvaise idée, pour trouver de l'argent, de dire surtout pas l'impôt sur le revenu, c'est du socialisme, mais par contre des impôts sur les matières premières. Ce que les industriels avaient toujours, toujours refusé et écarté. Et donc ce pauvre Thiers, qui était l'avocat en quelque sorte des manufacturiers, s'est trouvé à contre-pied, rejeté par ces manufacturiers. Et donc, on entre dans une Troisième République qui est libre-échangiste.
Oui, et cela va susciter beaucoup de mécontentement, puisque cette première mondialisation des échanges, on pourrait l'appeler ainsi, entraîne une baisse des prix sur le plan international. Ça suscite des mécontentements à droite comme à gauche, Francis Desmiers.
Alors la France est entrée en crise plus tard. Hein. C'est l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui ont connu une crise très vive dans les années 70. La France un peu plus tard, et c'est ce qui explique quand même que la République qu'on appelle celle des ducs est une République libre-échangiste aussi. Et d'autre part, aussi bien Ferry que Gambetta sont des libéraux. Ferry est un grand admirateur de Stuart Mill, du libre-échangisme anglais, et en dépit justement des pressions, ils vont résister, Ferry comme Gambetta. Non, vous avez raison.
Alors que effectivement... les ruraux résistent d'un côté, ça alimente le boulangisme, et de l'autre, la classe ouvrière.
Alors, effectivement, c'est à la fin des années 70, au tournant des années 80, quand la crise agricole intervient, que tout change. Et là, il faut comprendre donc cette fin du 19e siècle et la remise en question du libre-échange, disons, du bonapartisme, à la lumière d'une nouvelle mondialisation.
En tout cas, ces tensions entre défenseurs du protectionnisme et partisans du libre-échange se poursuivent. On peut l'entendre dans cet extrait d'Héléna et les hommes, le film de Jean Renoir qui se déroule à Paris à la fin des années 1880.
Maintenant, messieurs, les jeux sont faits. Abattons les cartes.
Rien ne presse. Qui nous dit que Henri convaincra la princesse? Et qui nous dit qu'elle-même convaincra le général?
Parfait. Je vais prier ma fiancée d'interrompre son entretien avec monsieur de Chemincourt.
Ne vous fâchez pas.
Et dites-nous ce que vous voulez, au cas où la Providence favoriserait notre entreprise.
Je veux l'augmentation des tarifs douaniers sur la chaussure étrangère.
Plus de concurrence, hein?
Mais pourquoi pas? Nos établissements emploient des milliers de braves gens. Notre devoir est de les protéger.
Par une politique protectionniste.
Bien sûr. Alors, nous sommes d'accord?
Sur tous les points.
Restaurer l'autorité.
Un chef, l'ordre.
Et la morale, messieurs. La morale.
La morale, la morale. Ah, la morale.
Eh bien, avant de commencer les opérations, messieurs, je tiens à vous prévenir d'une chose. J'exige l'abolition des droits de douane sur la chaussure étrangère.
Le libre-échange?
Vive la liberté!
Vous êtes une girouette!
Je viens de passer un accord avec les usines autrichiennes.
Tout s'explique.
Et voilà, et tout le monde ne change pas d'avis, comme on pouvait l'entendre dans cet extrait, puisqu'il y a une résistance et un mécontentement, une opposition assez forte de toute une partie de la population à la politique libre-échangiste. Face à cela, le président de la commission des douanes de la Chambre, Jules Méline, va proposer un nouveau protectionnisme, une sorte de voie médiane, Francis Démier.
Oui, simplement une petite remarque sur l'extrait que vous avez passé. On constate que les protectionnistes et libre-échangistes ont été souvent moqués au XIXe siècle et que les protectionnistes en particulier ont fait l'objet soit de caricatures, de petites histoires qui les ont tournés en ridicule. Donc c'est une des raisons qui fait que finalement on n'a pas pris souvent au sérieux dans le XXe siècle, la dimension, l'importance et la nature des débats de l'époque.
Parce que l'histoire a été écrite par les gagnants, c'est-à-dire les libre-échangistes.
Et du reste, c'est le cas de Méline, qui est un des hommes politiques qui a été le plus caricaturé, qu'on a considéré effectivement comme responsable de tous les malheurs français et surtout de tous les archaïsmes.
Et alors, qu'est-ce qu'il met en place?
Alors, il met en place une réponse à une mondialisation qui s'est effectivement développé dans les années 80-90 surtout. Et d'autre part aussi, il met en place une politique douanière qui correspond à ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire à maintenir un équilibre social. Autrement dit, Méline, qu'on décrit souvent comme simplement un avocat d'un retour au protectionnisme du patronat, est surtout quelqu'un qui pense en républicain. Il a été un adversaire du bonapartisme, un adversaire du boulangisme, et son idée, c'est effectivement la tradition républicaine. Et cette tradition républicaine, il veut la maintenir contre deux dangers, le basculement éventuel de la paysannerie du côté, finalement, de la gauche radicale, et d'autre part, la poussée socialiste. Et donc, il essaie de mettre sur pied une politique douanière qui est une politique qui va permettre le ralliement de la paysannerie à la République, ce qui s'est déjà passé effectivement dans les élections de 89, et d'autre part, contenir la poussée de la classe ouvrière en montrant, ce qui est du reste assez classique, que les douanes maintiennent l'emploi. Et donc, un lien entre la politique protectionniste et l'emploi ouvrier. Et donc là, nous avons effectivement une stratégie politique qui est en même temps une stratégie économique et qui passe par la mise au point d'un nouveau tarif en 1892, qui est un tarif assez astucieux, ce qu'on appelle le double tarif, avec un tarif minimum protecteur pour l'ensemble effectivement de l'économie française et un tarif conventionnel négocié en fonction d'avantages obtenus avec des pays étrangers.
Donc un certain protectionnisme, un certain retour du protectionnisme, et pour autant, à la toute fin du 19e siècle, la France est loin d'être le pays le plus fermé parmi les grandes puissances, Francis Démier.
Non, c'est pas. Quand on regarde la hiérarchie justement des taux de protection, le taux de protection est de 8%. Hein, en 1913, à la veille de la guerre, sur l'ensemble effectivement de l'économie française. Ce qui est un peu trompeur, parce que ce qui caractérise aussi le protectionnisme français, c'est qu'il est très différencié. À la veille de la guerre, il y a encore un protectionnisme très important pour l'agriculture. À certains moments où les prix du blé ont beaucoup baissé à certains moments, la protection est allée jusqu'à 35%. Et donc, le paysan français, disons, a joui d'une protection qui a évité...
qu'il tombe dans les bras du socialisme.
Et l'émigration rurale. Un des grands problèmes aussi de l'époque, c'est la croissance des grandes villes, la perte de population dans les campagnes, et en même temps, le déséquilibre politique associé à la croissance des grandes villes. Et donc, Méline se fait l'avocat, effectivement, du maintien d'un équilibre de ce type.
Mais si on regarde les pourcentages, ce que vous indiquez dans votre livre, Francis Démier, du côté de la Russie, c'est 50%. Aux États-Unis, c'est 30%. Ce sont des pourcentages assez impressionnants. Et puis, il y a aussi le protectionnisme en Allemagne qu'il faut évoquer. Pour autant, ce que vous nous expliquez dans votre ouvrage, c'est qu'on ne peut pas attribuer à ce protectionnisme une part de la responsabilité de la guerre.
Oui. Alors, il faut distinguer le discours et puis les réalités. Il y a eu un tarif allemand en 1902 qui est un tarif extrêmement élevé et très, très protectionniste. Et la France a dû donc débattre, combattre dans une guerre douanière qui s'est développée à partir des années 1900, qui est le moment, du reste, où la plupart des pays, face à la mondialisation, se réorganisent dans un cadre protectionniste, comme ils le font à l'heure actuelle, du reste. La mondialisation implique le protectionnisme, en règle générale. Et la France s'est débattue à cette époque-là dans des conditions assez difficiles. Mais on a maintenu quand même un tarif qui est un tarif modéré, l'enjeu étant quand même de maintenir les équilibres politiques français. On peut considérer finalement que, du point de vue de la diplomatie française, on parle de politique défensive, hein, nationalisme, patriotisme défensif. Le patriotisme économique est aussi défensif. Il n'a rien d'exagéré et les diplomates français, avec les diplomates allemands, ont cherché toujours à éviter de basculer dans une guerre douanière qui aurait fait évoluer la question des échanges vers le nationalisme. Ça n'est pas le cas.
Mais il y a quand même des voix qui se sont élevées et qui ont estimé que ce protectionnisme allemand avait eu une part de responsabilité dans la guerre, avec cette idée du doux commerce de Montesquieu, que l'ouverture des frontières, c'est ce qui permet la paix entre les peuples.
Oui, du reste, c'était une des positions qui a été celle de Jaurès à la veille de la guerre. Parce qu'on n'a pas évoqué effectivement les positions des socialistes français sur cette question-là, mais ils ont beaucoup débattu. Et surtout face à Méline, il y a effectivement une voie conservatrice du mélinisme qui est l'alliance entre la bourgeoisie et la paysannerie. Il y avait un autre protectionnisme qui s'appelait démocratique, défendu par Jaurès, et qui était l'alliance entre la paysannerie et la classe ouvrière.
Alors pour conclure, puisqu'on arrive au terme de cette passionnante discussion, Francis Démier, est-ce qu'il faut sans doute moins parler de politique libre-échangiste ou protectionniste que de savant dosage, d'ouverture et de fermeture selon le territoire et l'époque? C'est ce que nous montre l'exemple de la France au XIXe siècle?
Dans la conclusion de mon livre, j'ai essayé de montrer que finalement, l'enjeu fondamental était politique et que la préoccupation de Napoléon III, libre-échangiste, et celle de Méline, protectionniste, sont les mêmes, c'est-à-dire maintenir un équilibre. Napoléon III avait voulu se débarrasser d'un noyau prohibitionniste qui bloquait le développement français et qui avait provoqué la révolution de 1848. Méline essaie de se débarrasser politiquement, mais avec des mesures économiques, du danger nationaliste et de la pression socialiste.
Et ce qui est passionnant dans votre ouvrage, hein, que je recommande vraiment aux auditeurs, Francis Démier, c'est qu'on voit bien effectivement que ce débat entre libre-échangistes et protectionnistes renvoie à des clivages politiques beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce qu'on a essayé de démontrer tout au long de cette émission. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ces enjeux. Francis Démier, je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre et le titre de votre ouvrage, c'est « La nation frontière du libéralisme, libre-échangiste et protectionniste français 1786-1914 » paru aux éditions du CNRS il y a quelques mois. Et on continuera demain notre série sur le protectionnisme avec une émission consacrée à l'actualité cette fois, puisqu'avec l'Inflation Reduction Act qui est entré en vigueur il y a quelques jours aux États-Unis, se pose à nouveau cette question du protectionnisme, avec cette idée que Joe Biden peut-être poursuit la politique de son prédécesseur, et on va voir un petit peu quelle peut être la réponse de l'Europe face à cette tentation du repli sur soi américain. Un grand, grand merci, Francis Démier.
Je vous remercie de m'avoir accueilli.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber.
On se quitte avec le nouveau titre de Zao de Sagazan, Les Dormantes. Demain donc, après l'Inflation Reduction Act américain, le protectionnisme va-t-il redevenir la norme? Nous poserons la question à Sylvie Matelli, Ali Laïdi et Pauline Vibeau. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Passer silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.